info de información.
Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamed Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la crise entre le Bénin et le Niger. Cotonou refuse d'autoriser l'exportation du pétrole nigérien depuis le port béninois de Semekpodi. Les autorités béninoises reprochent à Niamey de maintenir sa frontière avec le Bénin fermée. Niamey dit le faire pour des raisons de sécurité. À suivre, le reportage de Ginette Fleur à Dandé, correspondante de VOA Afrique au Bénin, et l'analyse de Idriss Linge, journaliste économique et rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Nous irons ensuite en Mauritanie où des femmes victimes de cyberharcèlement sexuel font en plus face à des obstacles culturels qui les empêchent de dénoncer pleinement ces abus. Le fait marquant de la semaine, c'est la fin du dialogue national au Mali. Les participants à des consultations nationales recommandent de proroger la durée de la transition et de discuter, de susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine présidentielle. Nous en parlerons avec Sékou Tangara, directeur de la télévision Africable, une station partenaire de VOA Afrique basée au Mali. À suivre enfin le reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Il nous parlera du festival Kaoural Soudoubaba qui s'est tenu à Bamako du 9 au 12 mai. Festival placé sous le thème de la réconciliation entre les communautés. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. L'escale de notre voyage aujourd'hui au Bénin, le président Patrice Talon appelle les autorités nigériennes à rouvrir leurs frontières communes et à normaliser leurs relations si Niamey veut exporter son pétrole depuis le port béninois de Semekpodi. Cet embargo du Bénin sur le pétrole nigérien est un sujet qui déchaîne les passions, un bras de fer dont personne au final ne sortirait gagnant selon des analystes. Reportage de notre correspondante au Bénin, Ginette Fleur à Dandé.
Entre la sortie du président Patrice Talon sur le blocage de l'exportation du pétrole nigérien et les réponses par médias interposés des autorités nigériennes, les Béninois cherchent toujours des réponses. Dans un sursaut patriotique, ils sont nombreux à penser que le Bénin ne saurait couper les chines devant le Niger pour les raisons évoquées.
L'oignon ne passe pas, pourquoi vous voulez que le pétrole passe ? Parce qu'il y a un intervenant étranger qu'on appelle la Chine. Qu'est-ce que vous faites de notre souveraineté à nous? Le Bénin n'a-t-il pas de souveraineté? Mais quand ils disent que le Niger craint l'installation des Français au Bénin, que le Niger craint l'installation des Américains au Bénin, pourquoi le Bénin ne devrait-il pas craindre l'installation des Russes au Niger?
Pour l'ancien ministre de la Défense de Patrice Talon, le Bénin se mêle à nuisance de ceux qui ne le concernent pas. Candidat Zanaï tacle les autorités de son pays sur leur méconnaissance de la géopolitique.
À partir du moment où il y a un coup d'État là-bas, ça ne me regarde pas. Le type du Niger n'a pas fait un coup d'État pour le Bénin. Il a fait un coup d'État au Niger. C'est l'affaire des Nigériens. C'est tout. Vous parlez des frontières. C'est une affaire de géopolitique. Pourquoi le Togo n'a pas fait autant que nous? Le Togo est toujours dans la CDAO, non? Pourquoi le Togo n'a pas fait autant que nous?
Mais pour Jacques Ayadi, un acteur politique proche de la mouvance, tout béninois devrait s'aligner derrière les autorités pour cette décision qui conforte la souveraineté du Bénin.
Quand il y a des questions qui concernent la nation, là, il faudrait qu'on se mette ensemble. Tous les Béninois doivent être révoltés par cette position du Niger qui consiste à prendre notre pays et ses populations comme des moins que rien, qu'on peut traiter comme cela.
Pour le spécialiste de la géopolitique Michel De Campos, le Bénin est dans une position de représailles et si les deux États ne limitent pas les dégâts en faisant des concessions, c'est parti pour un conflit qui ne fait que commencer.
Mais le problème qui se pose en l'espèce est que là où ça fait mal pour le Niger, ça fait également très mal pour le Bénin. Les deux États ayant d'énormes intérêts économiques dans ce projet. On parle de centaines de millions de dollars et des opportunités en termes d'emplois directs et indirects.
Le Niger dit craindre pour la souveraineté de son territoire s'il ouvrait ses frontières. Le Bénin abriterait une base militaire française. Mais selon les déclarations du porte-parole du gouvernement, sur une radio de la place, il n'en est rien du tout. Wilfried Léandre Rumbedi.
Ils n'ont qu'à venir, on va les faire visiter le Bénin, depuis Cotonou jusqu'à Malanville, en passant par tous les coins, les axes frontaliers, et ils viendront regarder s'il y a une base ici. Une base militaire, c'est pas une aiguille dans une botte de foin quand même. Donc, il peut déployer les moyens satellitaires qu'il veut avec ses alliés militaires du moment pour venir voir si on a une base ici.
Niamey continue de dénoncer une décision unilatérale des autorités béninoises et ces dernières, pour corser davantage les choses, ont interdit la sortie des céréales et autres vivres que les commerçants ont l'habitude de faire transiter par le fleuve Niger. Ce n'est qu'une question de respect et de dignité, avait déclaré Patrice Talon lors de sa récente sortie médiatique. De Cotonou, nous, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Merci Ginette Fleur Adonné qui a réalisé ce reportage et qui est en ligne avec nous depuis Cotonou au Bénin. Bonsoir Ginette Fleur.
Bonsoir.
Alors le premier ministre nigérien Ali Mahman Lamine Zen a affirmé samedi dernier que son pays maintenait sa frontière avec le Bénin fermée pour des raisons de sécurité. Qui sont au Bénin ceux qui souffrent le plus de cette décision et comment réagissent-ils?
Merci. Les personnes qui souffrent d'abord de cette décision, ce sont les transporteurs, parce que jusqu'à l'heure où je parle, ils sont toujours bloqués à la frontière avec leurs camions. Ce sont d'abord eux qui souffrent et après, il y a les petits commerçants qui vivent du commerce transfrontalier. Voilà, en quelque sorte, les personnes qui souffrent pour le moment et qui ne savent plus quoi faire, parce que quand vous promenez vos micros au sein des transporteurs, qu'ils soient nigériens ou béninois, c'est que leurs activités pour le moment semblent être bloquées. Du coup, ils n'ont plus de revenus pour subvenir à leurs besoins ainsi qu'aux besoins de leur famille.
Alors Ginette Fleur, est-ce qu'on sait s'il y a des initiatives et des discussions pour essayer de déminer cette crise entre les deux pays?
Avant que le Bénin ne décide de mettre un embargo sur le pétrole nigérien, des démarches ont été effectuées tant par le président de la République que par le ministre des Affaires étrangères vers le Niger, mais la réponse n'ayant pas été celle voulue, c'est ça qui a conduit le Bénin à décider de bloquer l'exportation du pétrole nigérien et d'interdire ensuite l'exportation des céréales, du maïs et autres qui passent par le fleuve Niger. Donc, pour le moment, la classe politique, chacun selon ses sensibilités, essaye de demander à la Chine d'intervenir maintenant pour amener la paix entre les deux pays frères qui ont quand même des relations séculaires.
Merci beaucoup, Ginette Fleur Adonné, correspondante de VOA Afrique au Bénin. Et pour une analyse, retrouvons tout de suite Idriss Linge, qui est journaliste économique et rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Bonsoir, Idriss Linge.
Bonsoir, Mohamed Oumfa.
Alors, parlons tout d'abord, Idriss, du contexte. On sait que la CEDEAO a levé les sanctions qui frappaient le Niger. La frontière a été rouverte du côté du Bénin, mais la frontière nigérienne avec le Bénin reste fermée. Qu'est-ce qui se passe, Idriss Linge? Expliquez-nous le contexte dans lequel survient ces événements.
Précisément, la seule frontière qui reste fermée, c'est celle avec le Bénin. Je pense que les autorités du Niger reprochent au Bénin de n'avoir pas été souple lorsque l'embargo prévalait, au contraire par exemple du Togo qui permettait quand même qu'il y ait des possibilités de faire passer des produits sur le corridor. Le président béninois avait déjà abordé cela avec des journalistes en posant la question « mais qu'est-ce que je dois faire ? » Nous sommes engagés dans une communauté, nous sommes liés par des objectifs communs, et j'essaye d'être un membre de la communauté comme il faut. Ce sont des questions difficiles et nous avons essayé de faire au mieux tout en allégeant le maximum de risques, par exemple en laissant que des corridors qui n'étaient pas très formels puissent continuer de fonctionner sans pour autant mettre la pression là-dessus. Donc voilà la situation et je pense qu'aujourd'hui, comme a dit votre reportage, le Niger a dit qu'il y a des bases militaires françaises. Ils ont montré des schémas sur des bouts de papier, mais c'est très difficile à partir de la télé de savoir si c'était vrai ou si c'était faux. De toutes les façons, les Béninois, ils disent que c'est pas vrai et qu'il faudrait qu'on formalise les relations.
Alors, Idriss Linge, merci déjà pour la concision. Qu'est-ce qu'on perd d'un côté comme de l'autre du point de vue économique en raison de cette fermeture de frontières?
Bon, écoutez, votre journaliste l'a dit, les transporteurs, du point de vue microéconomique, sont ceux qui perdent le plus. J'ai quand même pu enregistrer qu'il y a près de 160 sociétés de transit qui travaillent dans le cadre du port de Cotonou. Mais maintenant, est-ce que tous travaillent sur le corridor Cotonou-Niamey? Je ne peux pas le dire. Mais ce que je sais aussi, c'est que d'un point de vue macro, le Niger n'est pas un partenaire économique important du Bénin. Il est uniquement le cinquième, je pense, fournisseur. Et il est le cinquième client et il est le septième fournisseur. Donc en réalité, le Niger ne pèse pas lourd dans les échanges commerciaux du Bénin. Le pays qui pèse le plus lourd pour le Bénin au niveau de la CEDEAO, il y a d'abord le Togo et ensuite le Nigeria. Et on voit très bien que le Bénin a bien managé ses relations économiques avec ceux-là. Mais maintenant, il faut dire maintenant qu'est-ce que le Bénin perd? C'est que le Bénin a quand même investi sur les corridors. Il a investi sur le corridor Niamey-Cotonou. Il a investi sur l'amélioration de son port. Donc, ceci pour pouvoir permettre qu'il y ait plus de flux parce que le Niger est en train de devenir un pays pétrolier. Donc, le Bénin s'est dit, si on améliore nos corridors, ça fait qu'on aura plus de business, on aura plus d'argent. Et là, si ce corridor ne peut pas être exploité, le Bénin est en train de perdre sur l'investissement. Et c'est pareil aujourd'hui sur le pipeline qui doit normalement faire passer du pétrole contre, je pense, des tarifs douaniers, mais aussi 0,5 $ par baril, qui permettrait quand même que le Bénin puisse renflouer ses caisses. Et là, si le pétrole ne passe pas, ces dollars-là ne peuvent pas entrer dans les caisses du Bénin. Donc, techniquement, voilà à peu près ce que le Bénin perd du point de vue opportunité. Mais du point de vue commercial, les échanges commerciaux du Bénin et du Niger ne sont vraiment pas profitables au Bénin, à l'exception, bien sûr, des transporteurs, des petits cultivateurs qui sont à la frontière et tout ce que votre reportage a dit.
Oui, parlons maintenant de l'aspect du pétrole que vous avez déjà commencé à évoquer. Le président béninois dit que le Niger ne peut pas, pour l'instant, utiliser le port de Semekpodi pour exporter son pétrole. Quelles sont les conséquences de cette décision?
Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que si on ne peut pas embarquer le pétrole nigérien, la première conséquence sera déjà pour les clients de ce pétrole. Il me semble que ce sont des Chinois qui ont signé le contrat de pick-off. Et encore une fois de plus, le président du Bénin n'a pas dit qu'on ne peut pas embarquer. Il a dit simplement que autant le riz traversait la frontière dans l'informel, on ne peut pas embarquer du pétrole dans l'informel. Il y a quand même des accords qui ont été signés pour que ce pétrole puisse passer au Bénin. Et l'accord prévoit que le Bénin et le Niger doivent discuter des modalités de ce passage. Mamadou Oumfa, le Bénin doit prélever 0,5 $ par baril, mais il faut qu'on sache le nombre de barils qui ont été embarqués. Le Niger a signé des accords d'avance ou de prêts contre ce pétrole-là. Il faut qu'on comprenne quel est le cadre. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui sera taxé, qu'est-ce qui ne sera pas taxé. Je pense que c'est tout à fait logique. Si, par exemple, une fois, moi, je produis de l'eau et que ça passe par votre salon et que vous apprenez maintenant qu'un fournisseur vient prendre de l'eau à votre portail, vous allez lui demander sur quelle base il vient le faire, surtout si vous n'avez pas été informé. Donc, je pense juste que le Bénin a demandé qu'il y ait des clarifications, mais il n'a pas dit que le pétrole ne passerait pas, parce que l'accord prévoit que le Bénin ne doit pas bloquer ce pétrole. Mais maintenant, si les autorités nigériennes disent que les Béninois, c'est des ennemis, c'est que le Bénin dément. S'ils disent qu'il y a des terroristes au Bénin, c'est que le Bénin dément. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème à régler. Et je pense que tant que ce n'est pas réglé, le pétrole ne pourra pas passer, parce que le pétrole ne pourra passer dans l'informel. C'est beaucoup trop important.
Merci beaucoup Idriss Linge, journaliste économique, rédacteur en chef de l'agence économique. Nous remercions également tous les internautes qui ont réagi à ce sujet sur la page Facebook de VOA Afrique. La suite de Focus Sahel dans un instant.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Deuxième escale de notre voyage, la Mauritanie, où certaines femmes sont confrontées à une double contrainte, le cyberharcèlement sexuel et les obstacles culturels qui les empêchent de dénoncer pleinement ces abus. Cette situation est exacerbée par l'absence de lois adaptées, comme on va le voir dans ce reportage de notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop, qui a rencontré deux victimes présumées.
Mariam, 26 ans, travaille dans une entreprise à Nouakchott. Dès son arrivée, son patron obtient son contact et commence, nous dit-elle, à la harceler sexuellement.
À chaque fois,
que je publie un statut sur WhatsApp, il commentait en me disant que j'étais charmante et sexy, que j'avais un corps parfait. Au début, je ne réagissais pas par courtoisie. Cependant, comme je ne répondais pas à ses messages au téléphone, il profitait de ma présence au travail pour m'inviter dans son bureau. Une fois là-bas, il recommençait avec des avances malsaines.
Tabara, une mère de famille, raconte être également harcelée malgré son statut de femme mariée clairement affiché sur les réseaux sociaux.
Cette personne, elle commence à écrire, oui, tu sais pourquoi j'insiste. Tu as du potentiel, tu peux devenir ministre. Telle de tes amies, elle n'est pas plus compétente que toi. Si elle est parvenue à devenir telle, toi aussi tu peux l'être. Tu as juste besoin d'un coaching, etc. Je dis à cette personne, ah vraiment, merci beaucoup, mais ça, c'est pas des choses qui m'intéressent. Et là, pof, la personne est fâchée.
Mariam et Tabara symbolisent les victimes de harcèlement sexuel en Mauritanie. Un phénomène accentué par les nouvelles technologies, selon le sociologue Abdoulaye Sow.
Les réseaux sociaux ont été un moyen qui a permis d'amplifier le phénomène, mais de lui donner aussi une certaine forme de lisibilité. Parce que c'est un outil de communication très prisé par les nouvelles générations de 14 à 18, de 14 à 25 ans.
Parmi les 10 présumées victimes de cyberharcèlement contactées pour ce reportage, seules 2 osent témoigner, dont Mariam à visage couvert.
Parce que
je reste employée dans la même entreprise, donc je ne vais pas prendre de risque pour mon poste. Je voulais simplement dénoncer le harcèlement sexuel auquel les femmes sont confrontées dans l'exercice de leurs fonctions.
Mais si la jeune fille parvient à témoigner, elle n'ose pas porter plainte, fait remarquer le sociologue Abdoulaye Sow.
Les policiers, les magistrats chargés de prendre le témoignage, chargés de noter la plainte, sont sécrétés par une société patriarcale où la fille qui est venue porter plainte ou dire qu'elle a été l'objet d'un harcèlement, ça se retourne même contre elle parce qu'on lui pose des questions qui vont amener un sentiment de culpabilité. Où est-ce qu'il t'a connu? Où est-ce que vous rencontrez? Vous avez vu? Donc les filles qui sont victimes de harcèlement doivent tout faire pour avoir l'enregistrement sonore de celui qui les harcèle. Parce que le fait d'envoyer des messages écrits, ce n'est pas une preuve au niveau de la droit. Sinon, chercher un témoin.
Les féministes militent aussi pour le projet de loi Karama sur le genre qui propose des peines allant de 1 mois à 5 ans de prison pour le harcèlement sexuel, mais font face à l'opposition des religieux qui les jugent contraires à la charia, la loi islamique. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
À présent, le fait marquant de la semaine, au Mali, les participants à des consultations nationales censées proposer des solutions à la crise sécuritaire et politique qui secoue le pays depuis plusieurs années ont adopté des recommandations à Bamako, notamment de proroger la durée de la transition de 2 à 5 ans et de susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Pour en savoir plus, retrouvons à Bamako Sekou Tangara. Il est le directeur de la télévision Africable, une station partenaire de VOA Afrique. Bonsoir Sekou Tangara.
Bonsoir Mohamedou Mfa.
Alors, quelles sont les raisons qui ont poussé les participants au dialogue à proposer la prolongation de la durée de la transition? Sur quoi se fondent ces recommandations?
Ces recommandations, de l'avis des participants, sinon de ceux qui ont rapporté ces décisions-là, ils se fondent sur l'attachement des autorités actuelles de la transition à amener le Mali vers la stabilité, un relatif regroupement de l'intégrité territoriale du Mali, même s'il y a encore des poches d'insécurité. Les participants au dialogue intermalien pensent qu'il faudra donner beaucoup plus de temps aux autorités actuelles pour consolider ces acquis-là. Ils ont parlé de 2 à 5 ans, mais souvent même ils parlent de rallonge indéterminée, parce qu'ils disent que les autorités peuvent rester au pouvoir jusqu'à la stabilisation totale du pays, ce qu'une frange de la population.
Sekou Tangara.
Parce que pour eux, au début, l'objectif du dialogue était de ramener la paix et la réconciliation.
Alors, Sekou Tangara, ce dialogue intermalien a été boycotté par une grande partie de ce qui reste de l'opposition. Un collectif d'ailleurs de partis et d'organisations de la société civile malienne a rejeté les conclusions de ce dialogue. De quelle marge de manœuvre disposent ceux qui s'opposent aux recommandations du dit dialogue?
Alors, ceux qui s'opposent pensent qu'ils ont beaucoup de marge de manœuvre. À écouter un de leurs porte-parole, Moussa Mara, ils pensent que les partis politiques qui s'opposent à ces 90% peuvent être estimés à plus de 90% de la classe politique malienne. Donc, ils pensent pouvoir être dotés de moyens, de puissance pour faire revenir les autorités actuelles de la transition à la raison, puisque ces partis pensent qu'il y a eu hors sujet. Le dialogue intermalien avait pour finalité d'amener la paix et la réconciliation. Ils ne comprennent pas, ces partis, pourquoi on parle de rallonge de la transition, pourquoi on parle de susciter la candidature de Hassimi ou d'élever au grade de général les cinq colonels et le ministre de l'Armée. Certains pensent que tout ce qui est issu du mouvement démocratique est discrédité. On verra les jours à venir qui des deux côtés, des deux partis, va avoir raison. Est-ce que ce sont ces partis-là ou est-ce que ce sont ces soutiens de la transition qui pensent que le politique, la chose politique au Mali est discréditée et qu'elle ne peut faire fléchir quoi que ce soit. Donc, wait and see.
Oui, Sekou Tangara, est-ce que les militaires, les colonels qui dirigent le pays, est-ce qu'ils ont réagi à ces recommandations? On imagine aisément que ces recommandations qui leur sont favorables seront adoptées.
Bon, on peut pas parler de réaction puisque le lendemain, à l'issue du dialogue intermalien, il y a eu une cérémonie officielle de remise des recommandations au président de la transition, le colonel Hassimi Goïta. Il a incité le gouvernement, les institutions à mettre en œuvre ces recommandations et il a tendu la main à ceux qui n'ont pas participé au dialogue, à ceux qui pensent autrement, mais il n'a pas directement réagi aux recommandations directes concernant les militaires concernant sa candidature à une probable élection présidentielle pour le moment.
Et pour terminer, Sekou Tangara, est-ce que on a eu déjà quelques réactions des partenaires internationaux, nationaux de votre pays, le Mali? Comment est-ce qu'on accueille ces recommandations ailleurs? Est-ce que cela préoccupe d'ailleurs vos autorités?
Je ne pense pas. Les autorités semblent être droites dans leurs bottes, parce qu'ils pensent que aucun partenaire, qui qu'il soit et d'où qu'il provienne, ne va pas aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Ce sont les Maliens eux-mêmes qui connaissent les intérêts du Mali. Si le partenariat se fait dans le respect, dans l'écoute, tant mieux. Dans le cas contraire, le Mali reste souverain et les recommandations de ce dialogue restent également souveraines et c'est aux Maliens de les appliquer ou de voir ce qui est à enlever. Je ne pense pas que les autorités donnent oreille à ce que peut penser l'extérieur.
Merci beaucoup, Sekou Tangara. Vous êtes le directeur de la télévision Africable, une station partenaire de VOA Afrique. Je rappelle que cette émission est diffusée en direct sur nos stations FM, sur la page Facebook de VOA Afrique et sur nos différentes télévisions partenaires. On reste au Mali pour la note positive de cette édition. Autrefois, la région de Mopti, une zone d'élevage par excellence, était connue pour ses manifestations culturelles en rapport avec la transhumance. Depuis 2012, du fait de l'insécurité, des manifestations comme la traversée des animaux appelée le Yaral, départ pour le pâturage, et le Dégal, retour du pâturage, ont cessé. C'est pour raviver cette facette de la culture de la région que le festival Kaural Soudoubaba s'est tenu à Bamako du 9 au 12 mai 2024. Il était placé sous le thème de la réconciliation entre les communautés. Reportage Mokhtar Bari.
Institué par Sékou Amadou, fondateur de l'Empire Peul du Massina en 1821, le Yaral ou le départ des animaux vers les verts pâturages du Sahel et les Dégal ou le retour de la transhumance étaient devenus des manifestations inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2005. Avec la rébellion du MNLA de janvier 2012, ces manifestations et bien d'autres ont été obligées de marquer une pause. La crise qui sévit au centre du Mali a encore amplifié la situation. C'est fort de ce constat que le festival Kaural Soudoubaba veut faire revivre ses traditions à Bamako. Sur les berges du fleuve Niger, chaque communauté a apporté sa pierre à la reconstruction du Soudoubaba. Le ministre de la Culture, Andogoli Guindo, était de la partie.
Depuis plus d'une dizaine d'années déjà, ces événements culturels ô combien importants pour les populations du Delta, donc du centre du Mali et pour le Mali tout entier, n'arrivent plus à se tenir. Mais tenir un événement comme celui-ci, avec en arrière-plan le souvenir de ces deux événements, Yaral et Dégal, est déjà une avancée, un esprit qui mérite d'être consolidé.
Pour les organisateurs, la culture a de tout temps été un facteur de rapprochement des peuples. En témoigne le rôle joué par chacune des communautés dans la traversée des animaux, comme l'explique Aïchata Bokoum Sissé, présidente du festival.
Et le Dégal est une activité qui rassemble beaucoup de monde, parce qu'à Mopti, Mopti est un carrefour où on trouve beaucoup de communautés maliennes. Et à chaque fois que les animaux sortent pour partir, beaucoup de monde les accompagne. Et quand ils reviennent aussi, c'est ça, il y a une fête autour de ça. Donc il y avait la cohésion sociale, l'entente et la paix que nous, on cherche actuellement depuis des décennies.
Au Mali, des initiatives comme celle d'Aïssata Bokoum sont de plus en plus appréciées. Amadou Guindo est le président de la jeunesse de Guinée Dogon.
Nous, en tant que jeunes, nous pensons que c'est un événement qui est vraiment nécessaire aujourd'hui pour le Mali, pour la jeunesse malienne, pour les Maliens tout court. On se parle, on danse, on chante, que le Mali, donc que la paix, la cohésion sociale.
Au moment où les dialogues intermaliens se tenaient, Kaural Soudoubaba ou la rencontre de la patrie essayait de ressouder les morceaux cassés d'une crise qui a vu deux frères d'hier, Peul et Dogon, s'entre-déchirer. Les organisateurs fondent l'espoir de pouvoir bientôt ramener le festival dans la cité de Mopti. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Focus Sahel que vous pouvez regarder et écouter sur notre site web voaafrique.com et sur nos plateformes digitales. Et c'est ici que prend fin cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à nos invités et nos correspondants qui ont partagé avec nous les nouvelles fraîches du Sahel et leur expertise et leur point de vue. Mouhamadou Oumfa à ce micro, Lionel Gaïma assurait la production et cette émission était disponible sur Facebook grâce à Trésor Matondo. Merci d'avoir écouté et regardé Focus Sahel qui est évidemment sur notre site web voaafrique.com. À très bientôt.
Vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook.